Donc je disais que la première version que j'ai vue de l'histoire de Solaris, c'était le film de Soderbergh, qui m'avait laissé sur pas un bon sentiment. C'est-à-dire que le Soderbergh a pris le parti, dans l'adaptation du roman de Stanislas Lem, de doter tout ce qui est lié à l'étude scientifique de la planète Solaris. Tout ce que vous voyez au début du film, le fameux rapport Burton, je crois, ou Brenton, où beaucoup de choses sont dites sur ce qui a déjà été fait sur Solaris, pourquoi une station a été basée là, pourquoi on fait des recherches, tout ça est totalement occulté dans le film de Soderbergh, ce qui fait que moi je suis sorti de là en me disant mais il y a plein de trucs que j'ai pas compris, plein de choses que j'ai mal assimilées ou qui me sont passées au-dessus de la tête, et j'ai lu le livre après. Et là, par contre, j'ai tout d'un coup, parce que Stanislas Lem, pour le coup, c'est un scientifique, je crois. Hein, il a une formation, il est médecin, philosophe et tout. Donc, il a vraiment, lui, son sujet premier dans Solaris, c'est la solaristique. C'est l'idée qu'il y ait un monde différent du nôtre, totalement aquatique, qui serait susceptible de porter une pensée, et que une civilisation humaine plus développée, c'est-à-dire capable d'aller dans l'espace, va étudier de manière scientifique. Et il y a énormément, c'est pareil, je ne sais pas si vous avez lu le livre, mais dans le livre, il y a énormément de chapitres qui sortent complètement de l'histoire et qui sont de la pure théorie. La pure théorie spatiale, de la pure théorie biologique, enfin il y a vraiment, je ne sais pas si tu t'en souviens, il y a vraiment des chapitres qui sont et qui donnent énormément d'informations sur la planète, et qui donc magnifie tout ce que vont vivre les personnages, les trois personnages de la station. Et là-dessus, vous avez Tarkovsky qui se met entre les deux et qui fait quasiment l'œuvre la plus complète des trois versions, où il va arriver non seulement à quand même donner les informations primordiales sur la planète, et à développer toute la partie psychologique, toute la partie sensible des personnages. Et ce film est d'autant plus remarquable que c'est une des rares fois où l'adaptation d'un roman au cinéma est non seulement réussie mais magnifiée. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand il y a un roman qu'on a aimé et qu'on le voit au cinéma, on sent tout de suite une sorte de déperdition. Il manque des choses, tout n'a pas été dit, tout ne peut pas être dit. Donc il y a tout le temps une idée que l'adaptation va faire des choix, faire des compromis par rapport à un roman, et généralement c'est assez mal perçu. Là, enfin c'est mon impression, Tarkovsky va encore plus loin que le livre. Il arrive par la, c'est aussi une des caractéristiques de la science-fiction, c'est qu'elle a énormément besoin de l'image. La science-fiction est beaucoup plus forte au cinéma, beaucoup plus forte en BD, par exemple. C'est un genre narratif romanesque qui vraiment, dès qu'il est mis en image, prend une dimension extraordinaire. Donc là, ça en est encore le cas. Mais en plus, Tarkovsky a décidé de jouer le jeu jusqu'au bout, c'est-à-dire la difficulté du sujet, les tenants et les aboutissants presque scientifiques de l'affaire, et de mettre ça dans un film, c'est exceptionnel, parce que vraiment à chaque fois, dès que il y a un livre un petit peu soutenu avec un sujet un petit peu profond, le cinéma, mon Dieu, met tout ça dans un entonnoir et écrase un peu. Et je vous dis, c'est vraiment rare. Enfin, j'ai peu d'exemples d'une telle réussite, en tout cas de Alors l'exemple de 2001 est assez parlant aussi, même si les films ne sont pas spécialement liés. 2001 était tiré d'une nouvelle de Arthur C. Clarke qui s'appelait La Sentinelle, qui était un petit texte. Et c'est assez extraordinaire parce que c'est pareil. C'est vous avez par le cinéma, il magnifie une peut-être trentaine de pages de Arthur C. Clarke, qui est d'ailleurs assez intéressante à lire parce que ça donne des clés sur le film. Mais quand une intelligence comme ça, que ça soit Kubrick ou que ça soit Tarkovsky, qui ont chacun leurs obsessions, qui ont chacun leur esthétique et tout ça, arrive à prendre une œuvre déjà forte et à la magnifier, ça donne ça, quoi. Ça donne, et c'est extrêmement rare. C'est des rencontres de talent et c'est des rencontres de volonté qui sont assez rares. Donc, le Solaris de Tarkovsky est un exemple magique pour ça. Alors pourquoi ça fonctionne, par exemple, Tarkovsky avec Solaris, et pourquoi ça fonctionne pas avec d'autres livres très forts? Le Parfum, par exemple, a été adapté au cinéma il y a pas très longtemps, qui est un roman assez dense, quasiment impossible à adapter. C'est un peu, pourquoi là ça fonctionne pas? Il y a quelque chose de magique dans le roman de Solaris, c'est que il devient tout de suite un sujet mythique. Cette planète avec recouverte d'océan, c'est un sujet qui n'est pas un sujet nouveau. C'est-à-dire que ça soit dans les mythes gréco-latins, scandinaves, il y a tout le temps cette idée qu'il y aurait peut-être un élément organique primordial qui serait soit à l'origine de l'univers, soit un constituant capital dans notre vie. Alors vous avez les fameux comment les appelaient déjà, les sages de Milet, les présocratiques. Vous avez par exemple Thalès qui était persuadé que la base de tout c'était de l'eau. Vous avez Héraclite qui était persuadé que l'élément primordial de tout c'était le feu. Vous avez un autre qui était, je crois que Parménide c'était l'air. Vous avez comme ça une succession en un temps très réduit de philosophes qui vont développer des mythes primordiaux liés à quelque chose d'organique. Et là, qu'est-ce que fait Stanislas Lem 2000 ans plus tard? Il fait la même chose. Il reprend un élément organique qui serait vivant, capable de penser et de surtout de contracter tous nos questionnements sur un seul point. Sur un seul point à étudier qui échappe. Alors, est-ce que c'est quelque chose d'intelligent? Est-ce que c'est quelque chose de sensible? Est-ce que c'est quelque chose qui nous renvoie notre propre image? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel on va comprendre ce pourquoi on est là ou ce pourquoi on vient? Au tout début, on parlait de l'absence de Dieu dans le sujet du. Mais en fait, elle est tout le temps présente, la présence de Dieu. Cette planète peut être une espèce de reflet de nos interrogations devant des choses trop grandes pour nous, trop qui nous dépassent. Le Stanislas Lem, donc scientifique qui va amener une démarche dite, je sais pas, de science-fiction technique valable, réutilise avec cette histoire, recrée un mythe qui existe depuis toujours, réutilise encore un sujet qui est très présent pas l'inconscient collectif, mais presque, et tout le temps, il y a tout le temps cette idée de se rapprocher de quelque chose d'extrêmement fort et d'organique. C'est un sujet qui, tout d'un coup, étant universel, peut être adapté et réadapté des dizaines et des dizaines de fois, et à chaque fois, étant un prisme très très large, et bien vous avez un Tarkovsky, vous avez un Soderbergh, dans 30 ans vous en aurez un autre, ou quelqu'un peut en faire un opéra, ou quelqu'un peut même réécrire un livre sur le sujet. Il va, avec cette espèce de porte ouverte qu'est cette planète mystérieuse, y amener ses interrogations à lui, ses frustrations, ses obsessions, ses traumatismes. Là, évidemment que Tarkovsky fait un travail sur la mémoire, un travail sur l'enfance, un travail sur qui c'est son sujet dans tous ses films. Soderbergh, lui, a amené autre chose qui est plus du lien du couple, plus du lien de la fracture entre un homme et une femme qui se retrouve 10 ans après, même dans des circonstances aussi folles que celle-là. Stanislas Lem, lui, amenait son rêve d'un monde, son rêve d'un contact extraterrestre, son rêve de dire que la science, ça nous amènera dans des siècles à venir à des rencontres extraordinaires. Voilà, vous avez au milieu de tout ça un mythe organique, et la force de ça, c'est que n'importe quel artiste ou n'importe quel spectateur ou lecteur va y amener son interprétation. C'est comme le monolithe de 2001. Tout le monde se demande la question de qu'est-ce que c'est que ce truc. Chacun y amène sa réponse. C'est assez génial et rare pour le remarquer, quoi. Il y a beaucoup de ce film raconte pas une histoire. Au bout du compte, c'est pas une véritable histoire avec un début, une fin, une logique. Enfin, c'est pas une histoire, c'est un questionnement qui est mis en image. C'est le questionnement d'un personnage, le questionnement du créateur qui est mis en image. C'est des choses formidables. C'est vraiment, beaucoup d'artistes cherchent à faire ça. C'est-à-dire que beaucoup vont essayer de vous avez que ça soit des romanciers ou des cinéastes qui essayent comme ça de faire des œuvres qui auraient cette dimension mythique. Cette dimension, tout de suite, ils vont toucher à quelque chose de totalement, c'est un film russe des années 60 qui, dès qu'il sort, paf, a un écho mondial immédiat. C'est qu'évident, c'est que c'est pas juste une histoire qui est racontée, c'est pas juste un cinéma de science-fiction. Lem et Tarkovsky touchent à quelque chose qui concerne absolument tout le monde. Et ça, ça fait les chefs-d'œuvre. On peut pas se forcer à le faire. Un artiste peut pas se dire, tiens, je vais commencer à écrire un livre, ou tiens, je vais faire un film, qui tout de suite je vais toucher aux fondamentaux. Généralement, quand on essaye de faire ce type d'œuvre-là, c'est là où on se foire le plus vite, de la meilleure façon. Quand on essaye d'être universel, ça ne fonctionne pas. Il faut une espèce de petit détail, de petite alchimie qui fait que ça prend.